À Bukavu sur 95,3.
Le Conseil provincial des médecins vétérinaires, CPMV, regroupé au sein de l'Association des médecins vétérinaires congolais, AMVC, a constaté qu'au sud Kivu, le secteur de l'élevage est au rouge. 95% des viandes, lait et œufs consommés à Bukavu proviennent de l'extérieur du pays. Mercredi dernier, le CPMV a organisé une journée de réflexion avec les fermiers, les éleveurs et quelques consommateurs pour qu'ensemble ils puissent étudier ce qu'il faut faire pour relancer le cheptel du sud Kivu. Adolphine Ngoy, vous êtes en ligne. Comment se présente le prix des produits laitiers et même ceux de volailles sur le marché de Bukavu au jour d'aujourd'hui?
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs des radios Okapi. Sur le marché de Bukavu, un œuf local, c'est-à-dire l'œuf pondu par une poule non croisée, revient à 120 francs congolais, tandis que celui qui est communément appelé liaïa pondeuse revient à 100 francs congolais. Quant à la viande de bovin, à Bukavu, il n'existe pas de chambre froide pour garder au frais. Il se pourrait que les bouchers achètent les bêtes sur pied en provenance de l'étranger. Ces derniers formulent quelques recommandations qu'ils jugent indispensables pour modifier la situation du secteur de l'élevage dans la province. Écoutons Christian Boy et Alain Bissimois, bouchers au marché de Nyawera à Ibanda.
Les bêtes que nous trouvons à la Russie, ça vient du Rwanda. L'autre vient de l'Ouganda. Ici, il n'y a pas de belles vaches. Là, au Rwanda, c'est là où il y a beaucoup de vaches. Mais ici, il n'y a rien. Ça, c'est le problème de garantir l'élevage dans la province du Sud-Kivu.
Nous, on part, on achète en dollars. Ici, au marché, on part en francs congolais. Pour avoir alors les dollars, on nous exige les taux de 520. Or, l'État avait fixé les taux de 480. Que l'État relance les vaches là à Walungu, Massifi, et qu'on puisse commencer à aller acheter là-bas. Que les fermiers puissent élever leur bétail sans danger.
Voilà, nous, Adolphine, après avoir suivi les déclarations des bouchers, nous nous rendons compte que le problème est vraiment sérieux, hein. Mais puisqu'il y avait aussi des fermiers dans la réunion, quelles sont les propositions faites par ces derniers dans le cadre de la relance du secteur de l'élevage?
Monsieur Patient Bagenda du comité anti-Bouaki et qui est dans le secteur de l'élevage bientôt 20 ans, énumère 5 conditions qui peuvent aider à la promotion de l'élevage au sud Kivu.
Le premier et le principal, c'est la sécurité des élevages et des fermes. Comme milieu d'élevage, toute la zone qui se trouve à entre 2000 et 2700 mètres d'altitude, la présence des bandes armées, des militaires qui sont là, qui ne permet pas à ce qu'on puisse relancer efficacement l'élevage. La deuxième condition, c'est qu'au niveau de la basse altitude, on encourage l'élevage à stabilisation. Il y a des avantages sur le plan des bêtes, de la production, mais aussi sur le plan de l'agriculture. Troisième condition, il faut absolument réorganiser notre système vétérinaire. Le quatrième facteur, il faut penser à l'importation des géniteurs, miser sur des cheptels performants. Le cinquième facteur, c'est la renaissance de l'État, que les gens qui veulent importer des bêtes aient toutes les facilités nécessaires pour le faire.
Voilà. Et que pensent les vétérinaires de la province Adolphine?
Nous suivons des constats du Conseil des vétérinaires au sud Kivu, docteur Emi Touga, médecin vétérinaire.
Sans éleveurs, nous n'avons pas de métier. Nous avons constaté que les importations des produits d'origine animale, à 95%, ça vient de l'extérieur. Alors que la province a des potentialités d'élevage où au moins une personne devait correspondre à une vache. Présentement, les statistiques nous montrent que nous n'avons que 110 000 têtes de bétail. La sonnette est au rouge. Le site kivoussien n'a plus droit à un repas équilibré. Il est en sécurité alimentaire parce que les produits d'origine animale lui manquent. L'action que nous menons auprès des éleveurs, la pharmacie vétérinaire, l'aliment du bétail, aussi les matériels d'élevage qu'il faut mettre en place, le problème de l'insécurité dans la province. Voilà pourquoi on s'est dit, essayons de relancer nos élevages et que nous soyons utiles dans cette phase de la reconstruction nationale.
Voilà, la relance des élevages donc doit être à la une. Nous allons, avant de nous quitter, Adolphine, faire un petit commentaire sur les habitudes alimentaires de la population de Bukavu, si vous pouvez nous en faire une idée précise.
Volontiers. Généralement, dans tous les ménages, l'aliment de base, c'est les haricots, les laits frais ou caillés appelés machanza, ainsi que de la viande de vache, des chèvres, très peu celle de mouton et du porc. Maintenant, suite à la détérioration du cheptel, on rencontre de nombreuses familles qui souffrent de la malnutrition parce que les ménagères n'arrivent pas à incorporer les légumes verts dans l'alimentation de leurs enfants et même dans celle de leurs maris.
Alors là, les associations d'encadrement des familles ont un morceau dur. Voyons ce que le gouvernement va faire pour pallier à cette difficulté avec notre invité, qui n'est autre que Dr. Bernard Assoumani, inspecteur provincial de l'agriculture, pêche et élevage. Adolphine, avec vous, on s'arrête là et à la prochaine.
À la prochaine.
Soirée spéciale Radio Capis, 27 septembre, avec nos envoyés spéciaux à Bruxelles et nos équipes à Kinshasa. Dès 18h15, 19h15, heure de l'Est du pays, direct de la soirée d'ouverture du Festival Yambi à Bruxelles, qui réunit 150 artistes congolais. 20h30, 21h30, heure de l'Est du pays, diffusion du concert Yambi qui se déroulera au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Bruxelles-Kinshasa, réunis pour l'ouverture de Yambi en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles. Le 26 septembre, Radio Capi vous offre la nuit de la fête de la culture congolaise. Un rendez-vous à ne pas manquer.
Voilà, donc, chers auditeurs, préparez déjà vos réactions et envoyez-les-nous au 081 050 2050. Voilà, donc, ça, c'est pour la SMS. Et si vous voulez, écrivez-nous à action@radiocapi.net.
Thank you.
Voilà, merci Bernard Assoumani, vous êtes inspecteur professeur de l'agriculture, pêche et élevage. Vous intervenez en direct d'Ouvira. Vous êtes avec nous en ligne, bonjour.
Bonjour, je suis en ligne.
Voilà, je rappelle que vous intervenez directement d'Ouvira, où vous êtes en mission. Nous avons suivi les points, nous parlons des problèmes de baisse des activités du secteur de l'élevage au sud Kivu. Au jour d'aujourd'hui, on nous signale que 95% de produits consommés par le sud kivucien proviennent de l'étranger. Et pourtant, le sud Kivu est agro-pastoral. Y a-t-il un problème au niveau de l'élevage?
Oui, effectivement, tout ce qui est consommé au niveau du sud Kivu provient de l'étranger. C'est à cause, premièrement, des maladies que nous avions contrôlées il y a quelques années, mais suite aux différents événements que nous avons vécu dans la province, qui font qu'il n'y a plus d'intervention contre ces maladies-là et que les maladies surgissent et ne font que décimer les effets de cheptel que nous avions en cours.
Et
le fait qu'il y a des pillages que nous avons connus et qui continuent encore. Ce qui fait que il y a ces éleveurs-là qui sont dans l'obligation parfois d'abattre alors qu'ils n'étaient pas ils n'avaient pas de besoins qui pouvaient justifier l'abattage de ces bêtes. C'est parce qu'ils craignent le pillage par les différentes bandes armées qui pillent encore dans la province.
Alors, disons, il y a une décennie, la province du sud Kivu comptait dans l'ensemble combien de cheptels?
Disons, la province du sud Kivu comptait dans les 250 à 300 000 têtes de bétail, mais aujourd'hui, nous sommes dans une centaine, un millier de têtes de bétail, mais qui sont beaucoup plus localisées dans les moyens et hauts plateaux de Fizi.
Alors, qu'en est-il de la production? Ça a baissé sensiblement?
Si, j'ai dit que la production a baissé sensiblement, parce que pour le moment, presque tous les bétails que nous consommons sur le marché proviennent de l'étranger, dans l'ordre de 70 à 80%.
Alors bon, qu'en est-il de la prise en charge des éleveurs?
Au
niveau de l'inspectorat,
on est en train de faire pour le moment, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je me trouve à Ouvira, et nous sommes en train de leur expliquer que l'État investisseur, l'État producteur, l'État commerçant, l'État donneur d'appui de tout ce qui est soin de l'État ne va plus exister. Il faudra que les éleveurs commencent à s'organiser, que les éleveurs commencent à s'organiser pour se prendre en charge. Bien sûr, il y a des petites actions qui se font présentement et qui vont demander à ces mêmes éleveurs-là de se prendre en charge à partir de ces petites œuvres qui se font par la FAO et autres donateurs.
Oui, mais c'est vrai que l'État providence n'existe plus, mais cela ne veut pas dire que l'inspectorat provincial de l'agriculture ne va pas s'occuper de ces éleveurs, sinon ça sera catastrophique.
Si, l'inspection de l'agriculture va s'occuper de ses éleveurs, mais il va se limiter dans le rôle de la réglementation, il va se limiter dans le rôle du suivi de ses activités au niveau des terrains. Mais dire que l'État ou l'inspection de l'agriculture va encore sortir de l'argent pour payer des médicaments et donner ça gratuitement aux éleveurs, il faudra que ça puisse cesser.
Donc si je comprends bien, l'inspection n'a plus de moyens de sa politique.
Bon, la politique de l'inspection ne veut pas dire qu'il faut donner des soins gratuitement. Il faudra que les gens prennent conscience que l'élevage, c'est une affaire. Ça doit rapporter quelque chose.
Donc même pas une petite intervention ponctuelle?
Si. C'est la raison pour laquelle je me trouve sur le terrain pour le moment. Il y a des interventions qui se font.
Mais voilà. Alors, est-ce que vous ne comptez pas faire des plaidoyers auprès de qui les droits, qui pourraient peut-être aider, tant soit peu, ces éleveurs à relancer leurs activités, parce que c'est cela qui doit être un défi.
Si. Nous avons commencé avec les opérateurs économiques. Ils doivent savoir que au lieu d'aller acheter des cure-dents à Dubaï, au lieu d'aller acheter je ne sais pas quoi, des épingles, des aiguilles dans les pays asiatiques, et qu'il y avait moyen d'organiser ce secteur-là d'élevage et de gagner de l'argent. C'est-à-dire, ces mêmes opérateurs économiques, ils peuvent soit relancer les activités d'élevage, et ça peut créer des emplois pour les gens que nous voyons piller à travers les journées dans la ville en train de vendre qui une cigarette, qui ceci, ça peut créer des emplois et aussi retenir ces agents-là au niveau des villages, tout comme les petits éleveurs aussi peuvent profiter de la présence de ces opérateurs économiques sur le terrain.
Ben alors concrètement, que doivent faire les opérateurs économiques?
Je dirais que les opérateurs économiques devaient relancer cette activité d'élevage par les plantations qu'ils ont abandonnées suite à ce commerce-là qu'ils font. Et si on relance ces activités d'élevage dans les plantations, même les petits producteurs pourront aussi en profiter, en ce sens qu'ils auront l'accès facile aux médicaments.
Oui, ben alors, nous vous proposons de suivre Monsieur Patient Bangueda du comité anti-boiti, qui est dans le secteur de l'élevage et qui, au cours de ces points, nous a fait a énumérer cinq conditions qui peuvent aider à relancer l'élevage au Sud Kivu.
Le premier et le principal, c'est la sécurité des élevages et des fermes. Comme milieu d'élevage, toute la zone qui se trouve entre 2000 et 2700 d'altitude, la présence des bases armées, des militaires, qui sont là, qui ne permettent pas à ce qu'on puisse relancer efficacement l'élevage. La deuxième condition, c'est qu'au niveau de la basse altitude, on encourage l'élevage en stabilisation. Il y a des avantages sur le plan des bêtes, de la production, mais aussi sur le plan de l'agriculture. Troisième condition, il faut absolument réorganiser notre système de qualité. Le quatrième facteur, il faut penser à l'importation des géniteurs, miser sur du cheptel performant. Le cinquième facteur, c'est la renaissance de l'État, que les gens qui veulent importer des bêtes aient toutes les facilités nécessaires pour le faire.
Voilà, M. Bernard, quelle attitude avez-vous par rapport à cette réaction de M. Patient Bangueda? Vous ne pensez pas que l'implication totale de l'inspection provinciale vaut son présent d'or?
Bon, d'abord, si on me dit que dans les hautes altitudes, il y a de l'insécurité et que pour les rentrer l'élevage, il faut attendre que cette insécurité puisse cesser, là, je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas seulement au ce niveau-là de haute altitude qu'on peut relancer cette activité. Parce que si on attend qu'on puisse sécuriser cette partie-là, qui est beaucoup plus occupée par les différents, c'est-à-dire qu'on attendra longtemps parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra les évacuer de là. Le mieux serait peut-être de commencer là où il y a la paix, on peut toujours commencer par là. Et puis de deux, l'importation de bétail, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que souvent, la plupart des fois, quand on importe un bétail, ça s'acclimate difficilement et on ne fait qu'enregistrer des pertes. Si on me disait qu'on peut améliorer encore la race par les inséminations, là je suis tout à fait d'accord. Parce qu'à ce moment-là, les produits qui naîtraient seraient 50%. Le produit local avec les anticorps locaux et puis 50% autres de production qui est importée. Là, je serais tout à fait d'accord et puis on pourra y aller petit à petit jusqu'à remplacer cette race locale qui existe présentement par une race qui pourra s'adapter.
Oui, bien, soutenir.
Dire que l'État doit réorganiser le service vétérinaire. Je ne sais pas ce qu'il entend par là. Parce que moi, ce que je proposerais est que pour que cette...
Peut-être les activités de service vétérinaire, toutes ces activités ne sont pas visibles.
Oui, bon, C'est possible. Peut-être que ce ne sont pas visibles, mais moi je sais que il faudra plutôt plutôt que les vétérinaires s'organisent en privé. Et qu'il faudra qu'ils trouvent un crédit pour qu'ils puissent s'organiser en privé. À ce moment-là, ils pourront être très visibles. Parce que dire qu'il faut encore attendre de cet État-là qui donne tout, ça ne pourra pas se justifier. Parce que pour le moment, l'État n'a pas ce moyen-là de donner tout ce qu'il faut.
Et soutenir les cheptels forts, ça pourrait aussi être une solution.
Bon, ça, ce n'est pas une affaire de l'État. Les cheptels forts, ça, ce sont des crédits, ce sont des banques. Je crois que s'il y a des banques qui peuvent donner de meilleures conditions pour soutenir...
Oui, ben c'est pourquoi nous revenons sur l'implication, de l'inspection, parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs, dans bien des cas, sont ignorants de procédures d'obtention de je sais pas moi, de financement ou de arracher le marché dans certains, pour certains projets.
Bon, je ne pense pas que ces éleveurs-là soient ignorants. Les éleveurs sont mal habitués, ils s'attendent tout de l'État, que l'État puisse donner gratuitement. Pour le moment, je vous dis que je suis devant un auditoire d'éleveurs. Je suis en train de leur expliquer que cet État de la Providence n'existera plus, qu'il faudra qu'ils cherchent un moyen de se prendre en charge. Mais moi, je suis un vétérinaire. Je suis avec les vétérinaires aussi, dans le même auditoire. Je suis en train de leur expliquer.
Voilà, docteur Bernard, nous rappelons que vous êtes l'inspecteur provincial de l'agriculture, pêche et élevage à Bukavu. Merci d'avoir été démontré. À la prochaine.
Ok, je vous remercie aussi, merci.